Je reprends un peu pour faire la continuité entre 2002 et 2003 et la neige et les boules de neige font la continuité. C'est l'hiver qui commence. La grande question au plan philosophique, c'est l'induction, qui est quand même très propre à Aristote. C'est lui qui l'a découvert. Et l'induction va être le dépassement de la logique. La logique a une importance très grande, une importance un peu maternelle de l'ordre de la disposition. C'est curieux, hein. On dirait que logis, c'est la paternité, et pas du tout. C'est quelquefois le refus de la paternité. La paternité, c'est le principe. Vous savez, il y a cette question très belle dans saint Thomas, à propos de la très sainte Trinité, quand il se dit, à propos du Père, le Père est principe. On dit à première vue, mais quelle drôle d'idée, passer du Père au principe. Et c'est vrai, c'est... Et puis quand on réfléchit, on dit, ah ben, enfin, c'est... le dépassement de la logique, c'est la découverte du principe. Or, quelle est la découverte du principe? Est-ce que nous avons vraiment découvert ce que c'est qu'un principe? Un principe intellectuel, hein, pas une loi. La plupart du temps, l'ersatz du principe, c'est la loi. On se réfugie dans la loi et on croit être un homme de principe. Pauvre principe. La dégringolade du principe en la loi. La loi, c'est une relation. Le principe, c'est le dépassement de la relation. C'est juste l'inverse. Or, la plupart du temps, aujourd'hui, dans le positivisme, et le positivisme, il est très présent, c'est de confondre le principe et la loi. Alors on cherche des lois. Il n'y a pas de loi métaphysique. Il faudrait l'écrire en grand pour un traité de métaphysique. Le dépassement de la loi, la découverte du principe. Pouf! Et dans votre vie, hein, faites un petit examen de conscience métaphysique. C'est très bon au début de l'année, hein. Pas seulement à la fin, mais au début. Au fond, constamment, les gens de loi ont dit « Ah, ce sont des gens de principe ». Mais non, ce sont des gens de faux principes. Ils ramènent la loi, ils ramènent le principe à ce que le principe est pour l'homme, la loi. La loi, vous êtes dans l'ordre pratique. Le positivisme, c'est pratique. Et le dépassement, c'est la loi. Le dépassement, c'est le principe. Alors, ça, je crois très important. Vous voyez, c'est de comprendre que la métaphysique, elle n'existe qu'au moment où vous avez compris ce que c'est que cette induction. L'induction, elle commence avec la philosophie. La première induction, La première induction, qui est très curieuse, hein, très curieuse, avec la philosophie pratique. Vous découvrez la cause exemplaire. Vous découvrez la cause finale. Et puis, vous dégringolez sur la loi. Il n'y a pas de principe au point de vue politique. C'est pour ça que ça va si mal. Il y a des gens qui établissent des lois et qui pensent établir des principes. C'est vrai, la philosophie commence par un point de vue pratique. Commence un point de vue pratique, la philosophie de l'art. Dans la philosophie de l'art, c'est les découvertes de la cause exemplaire que nous portons en nous. L'idée, cause exemplaire, et qu'on aime beaucoup puisqu'elle vient de nous. C'est pour ça que l'art est quelque chose de si important, parce que ça vient de nous. Et nous arrivons à découvrir un premier principe, cause exemplaire, qui est un principe, vous voyez, qui touche à la loi qui n'est pas la loi, qui est le premier dépassement de la loi à cause exemplaire. C'est pour ça que les artistes sont si farouchement indépendants par rapport aux lois. Il n'y a pas d'homme plus indépendant des lois que l'artiste, un véritable artiste. Quand vous avez un artiste devant vous, un véritable artiste, mettez-le sur la question des lois. Alors vous entendrez des choses extrêmement intéressantes. C'est très curieux, ça. Parce qu'ils sentent bien, hein. Ils sentent bien que la saisie d'un principe au point de la philosophie de l'art, c'est au fond très subjectif et en même temps très objectif. C'est très curieux. Les inductions sont très particulières. Il faudrait étudier beaucoup l'induction au point de vue artistique, parce que je crois qu'on verrait bien dans l'induction de la philosophie de l'art comme c'est délicat. L'objectivité, la subjectivité, hein. Dans le point de vue de l'art, c'est pas commode de séparer l'objectivité et la subjectivité. Il n'y a rien de plus subjectif qu'un artiste et rien de plus objectif qu'un artiste. C'est curieux, ça. Hein? Je me souviens toujours, là. Première fois que j'ai été à Athènes, et c'était avec un sculpteur. Un sculpteur valaisan. Alors il avait tout pour avoir l'indépendance de l'artiste. Et on visitait les îles parce que lui voulait trouver le regard grec, les yeux grecs. Et le coup de poing que j'ai reçu de mon artiste, sculpteur, en regardant une déesse passer devant lui. Une jeune fille grecque dans une des îles. Et elle me dit, ah, oh, regardez cette déesse, des yeux grecs. Elle a... C'était la finalité de tout son voyage. C'est tout pour lui. Et c'est merveilleux, hein. C'est très étonnant. C'est toujours présent pour moi, c'est comme si c'était hier. La manière dont, subitement, il découvrait un principe artistique. Les yeux grecs, ce qu'ils cherchaient tout le temps. Lydia. C'était lui qui le voyait, Lydia. C'était lui qui plaquait sur cette jeune fille son désir intense de voir des yeux grecs, un regard grec. C'était très impressionnant. Alors évidemment, il me mettait dans une drôle de situation. J'étais avec mon habit dominicain. Je ne pouvais pas avoir la même liberté que lui pour regarder le regard grec. Et c'est très important de voir l'induction en philosophie de l'art. C'est la première. Il faut toujours être très impressionné. Le premier génétique. Parce que le premier génétique, il est très important. Quand l'enfant apprend à marcher et qu'il marche avec les pieds courbés, ça restera toute sa vie. Il faut qu'il marche droit. Et c'est vrai, les premiers génétiques sont très importants. Parce qu'ils sont tout proches de nous. Alors, on les voit facilement. Vous voyez l'induction en philosophie de l'art. Vous voyez l'induction en philosophie éthique, morale. Vous voyez l'induction en philosophie politique. Ah, y a-t-il une induction? Alors, j'ai un gros problème, interrogation. Y a-t-il une induction en philosophie politique? Il y a eu un simili d'induction. La découverte de la loi, émettre des lois, c'est pas des principes. Et c'est quand même un principe. La loi est quand même un certain principe. La loi, dans ce qu'elle a de tout à fait fondamental, aimer ce qui est bien et haïr ce qui est mauvais. Alors on dit que c'est le premier principe au point de vue pratique. Ah, qu'est-ce que c'est comme principe? C'est point d'interrogation. Hein. Ne faisons pas de la politique. Mais c'est intéressant d'en faire. Parce que je crois qu'en en politique, celui qui se jette tout de suite en politique sans avoir vraiment compris ce qu'est l'analogie, pour toute sa vie, il va confondre loi et principe. Et ce sera catastrophique. Et puis la découverte de l'induction en philosophie spéculative, la nature. Je découvre la nature. Je ne touche pas la nature. Vous n'avez pas l'expérience directe de la nature. Vous n'avez jamais vu une nature exister. Vous avez vu des individus naturels. Voir une petite biche, c'est très beau. Voir une petite biche. Est-ce que vous voyez la nature de la biche? Non. Vous avez vu telle petite biche. Et on cherche alors ce que c'est que la nature. Induction de la nature. Induction de l'âme, la psyché, du vivant. Un principe immanent du vivant. Et l'induction de la substance au niveau de l'être. Alors, vous voyez, comme ça exige un dépassement, le dépassement pratique, le dépassement du mouvement, le dépassement de l'immanence de l'âme. Vous découvrez principe de l'être. Je crois que pour découvrir le principe de l'être, il y a tous ces dépassements. Dépassement de la cause exemplaire, dépassement de la fin immanente, dépassement du devenir, dépassement du vivant. Et vous avez l'être. Or, ce qui est très important, c'est de comprendre cette première induction. Alors, quand je dis première induction, on ne connaît pas au plan spéculatif, au niveau de l'être. Une induction au niveau de l'être, ce n'est pas commode, hein. Parce que vous devez rester avec le jugement d'existence, ceci est. Vous devez, à l'intérieur de ce jugement d'existence, découvrir ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être. Or, toute induction présuppose l'interrogation. Il n'y a pas d'induction sans interrogation. Et donc, le poids de l'interrogation est capital. Vous interrogez, et vous interrogez selon les diverses causalités. Vous interrogez pour comprendre la cause matérielle, en quoi ? L'interrogation, en quoi ? En quoi cette chose se fait ? Quand vous demandez en quoi se trouve cette table, vous dites en bois. Et elle pourrait être une table de fer, et vous diriez en fer. Ça pourrait être une table seigneurial, fait en bronze. En quoi ? Interrogation, en quoi ? Causalité finale, causalité matérielle. Et tout de suite, vous posez en vue de quoi ? Cause matérielle et cause finale, très souvent, se donnent la main. C'est curieux, ça. Et quand la cause finale disparaît, avec le positivisme, la cause finale disparaît, la cause finale a disparu dans la recherche scientifique d'une science propre, d'une science bien faite, et la cause finale a disparu même en théologie. On ne se pose plus vraiment la question de la cause finale. Et elle est disparue même dans cette recherche de ce que c'est que la parole de Dieu. Le positivisme a gagné dans l'Église. Très, très curieux. Et il y a une alliance secrète entre le positivisme et les protestants. C'est curieux, ça. Et ça, c'est très important à voir. Et on peut dire qu'en théologie, la causalité finale a disparu. Le sens de la parole de Dieu, au point de vue de la finalité, a disparu. On cherche avant tout qu'est-ce l'intelligibilité et non pas la finalité. Il y a un lien entre cause matérielle et cause finale. Très intéressant. Mais c'est très distinct. Hein. C'est le point de départ et le terme. C'est les deux extrêmes. Extrême par le bas, extrême par le haut. Cause matérielle. Sur quoi on se fonde ? voyez, la question du fondement. Le fondement n'est pas un principe. Ça cache le principe. C'est le principe matériel dans sa manière d'être. C'est le principe matériel lié au pos, au comment. Alors c'est le fondement. C'est très important, le fondement. Alors, dès qu'on quitte la causalité finale, toutes les recherches se font sur le fondement. Comme si c'est le fondement qui remplacera la cause finale. Et constamment, c'est comme ça. On recherche énormément les fondements. On est archéologue. On cherche les fondements. Et on croit qu'en découvrant les fondements, qu'on découvre la finalité. C'est constamment la recherche du fondement qui est le grand obstacle à la finalité. On se contente de ça. On croit avoir tout compris quand on a compris un fondement. Le fondement, c'est de l'ordre du pos, hein, pas du tiesti. Il faut arriver à distinguer très nettement, hein, dans notre intelligence, interrogeant la différence entre le tiesti, qu'est-ce que c'est, comment cela se réalise. Dans le pos, vous êtes au niveau existentiel. Dans le tiesti, vous êtes au niveau du premier. Le pos n'est jamais le premier, mais il joue le rôle de premier. Et très facilement, on reste dans ce premier, le fondement. Vous voyez ? Au point de vue recherche intellectuelle, c'est très important de bien voir la différence. Parce que le fondement constamment m'empêche d'aller plus loin, c'est-à-dire de chercher le principe. Je m'arrête à ce comment. Oui, les documents sont les fondements de la connaissance historique. Les documents. Les documents, ce n'est pas des principes. Ce sont des faits existentiels. Et très facilement, on s'arrête aux documents. J'ai découvert un document très ancien qui fait que toutes les théories précédentes vont être faussées parce qu'on a redécouvert un fondement nouveau. Vous voyez ? Et le fondement, très facilement, pour notre esprit plus ou moins positiviste, notre esprit de notre siècle, le fondement remplace le principe, remplace la finalité. Je recherche en vue de quoi ? Oui. Le fondement ne suscite pas ne provient pas de cette interrogation en vue de quoi. Et puis, vous posez la question, qu'est-ce que c'est ? C'est très important de comprendre l'interrogation et de préciser dans l'interrogation ces divers types d'interrogations. Le développement de notre intelligence à partir de l'expérience. L'expérience est toujours présente dans l'interrogation. Toute interrogation repose sur une réalité existante. pas sur quelque chose de possible. Ça, c'est une fausse interrogation. C'est une interrogation qui me conduira à chercher des choses en soi et ne pas à découvrir la réalité. L'interrogation part toujours d'une réalité existante, et c'est l'intelligence qui, dans cette réalité existante, désire saisir ce qu'elle est, en quoi elle est, ce qu'elle est, en vue de quoi elle est, sous l'influence de qui elle existe. Et je me pose ces grandes interrogations. Vous voyez, il faut que notre intelligence, de plus en plus, s'affine par l'interrogation. Notre intelligence s'affine dans l'interrogation. Quand nous arrivons à discerner bien les diverses interrogations, notre intelligence s'affine et peut alors, à ce moment-là, analyser. Oui, l'analyse se fait à partir de l'interrogation. Autrement, ce n'est pas une analyse. Vous regardez les différentes parties matérielles. Quand vous regardez un fondement, vous le divisez comme une tarte. Je vois cette couche-là, cette couche-là. Et ça, c'est très matériel. C'est pas l'interrogation. C'est une fausse interrogation. Et la division joue ce rôle terrible de me mettre dans des fausses pistes. Alors je regarde des parties. La partie n'est pas un principe. La partie, c'est une manière particulière d'être à l'égard d'un tout. Je joue le rôle de partie. Jouer le rôle de partie, d'être un parti, ce n'est pas un principe. C'est simplement jouer un rôle à l'égard du tout. Donc, il y a une grosse différence entre les deux et qui est très importante à bien voir. Parce que aujourd'hui, on croit qu'on analyse quand on divise les diverses parties. Première partie, deuxième partie, troisième partie. Est-ce que c'est une analyse ? Non. J'étudie ça, j'étudie ça, j'étudie ça, successivement. C'est un ordre très matériel. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Quand vous devez faire la recension d'un livre, la première chose que vous faites, c'est de regarder l'ordre qui existe entre les chapitres. Et vous comprenez tout de suite si cet ordre se fait matériellement ou si cet ordre est organique. Un ordre organique jaillit du sujet existant. Et on voit alors que dans ce sujet complexe, on cherche ce qui est principal. Non pas ce qui a été premier sur l'ordre du devenir, mais ce qui est principal, c'est-à-dire sa finalité. Cela est en vue de quoi ? C'est ça le principal. C'est ça qui demeure. Alors, à ce moment-là, ce n'est plus une étude matérielle des diverses parties. C'est une étude organique. Je cherche en vue de quoi cette chose ? Ça sert à quoi ? Si ça ne sert à rien, inutile. une propagande énorme. J'étais Grasset, l'éditeur Grasset qui prétendait ouvertement qu'il pouvait, en raison de la propagande, arriver à faire que tel livre soit considéré comme le livre principal de l'année. Prétendant qu'au fond, c'était pas du tout la qualité intrinsèque du livre, mais c'était la manière dont on pouvait en faire connaissance, la manière dont on pouvait le présenter. Et la manière dont on pouvait le présenter remplaçait la qualité intrinsèque de la chose. Et il disait ça en raison du peu de jugement qualitatif de ceux qui achetaient le livre. En disant, les hommes aujourd'hui ne pensent plus. Ils pensent en fonction de la propagande. L'aspect de la propagande est supérieur à leur pensée. Et alors, on dit, c'est le livre de l'année. Ce sera le livre de l'année. Et on viendra ajouter sur le livre de l'année. Oh, c'est merveilleux, étonnant. Il n'y a rien de mieux. Et puis, on étudie, mais pourquoi ? Ah, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi, mais c'est lui de l'année. C'est intéressant de voir qu'un éditeur est conscient que la propagande qu'on peut faire à l'égard de tel ou tel livre fait le livre. Alors, c'est juste l'inverse quand on cherche le principe. Parce que la propagande n'est pas un principe. C'est une loi politique. Mais ce n'est pas un principe. Ce n'est pas ça qui me dit la vraie valeur du livre. L'analyse que vous faites. Vous voyez, il faut arriver à comprendre l'interrogation philosophique. Qu'est-ce ? En quoi ? Pourquoi ? D'où ? Ces grandes interrogations, il faut se les poser constamment. Il faut s'habituer à ça. On est tous des vieilles machines et qui mettent beaucoup de temps avant de se mettre à remuer. Et on n'aime pas beaucoup le « c'est m'avéré » au point de vue intellectuel. On est beaucoup plus à l'aise quand on est mu. Pas plus intelligent que nous. Alors on continue d'être mu. On dit, mais pourquoi c'est bien ? Oh, on m'a dit que c'était bien. Très bien. Alors, c'est très gentil pour un gosse, c'est terriblement gênant pour un homme. Quand vous lui demandez pourquoi c'est bien, on m'a dit que c'était très bien. On m'a dit que c'était... Ça veut dire qu'on abdique. L'interrogation, qu'est-ce que c'est ? Le tiesti, qu'est-ce que c'est ? Vous voyez, et l'interrogation pour la découverte de la substance, c'est qu'est-ce que c'est que l'être ? Pas commode, hein ? Qu'est-ce que c'est que l'être ? D'où vient l'être ? En vue de quoi est l'être ? Puisqu'au point de vue métaphysique, c'est ce qui est comme être qui m'intéresse. Ce n'est pas l'homme, c'est dans l'homme son être. Pas sa vie, son être. Sa vie présupposée connue. On a fait une philosophie du vivant avant la métaphysique. Mais la philosophie du vivant, c'est pas suffisant, c'est son être que je cherche. Et quand vous posez la question, en quoi est l'être ? Quand vous posez la question, en quoi est l'être ? Qu'est-ce que vous répondez ? En quoi est l'être ? Il n'y a pas de réponse au niveau matériel. L'être comme tel n'est pas la matière. Donc, en quoi est l'être ? Cherchez indéfiniment, vous ne trouverez pas. Alors, quand on ne trouve pas, qu'est-ce qu'on fait ? On se rabat sur le pos, le comment. En quoi est l'être ? Ah, mais oui, l'être, il est ou matériel ou spirituel. Ah oui, mais est-ce que l'être matériel, c'est encore de l'être ? Ou est-ce que l'être matériel, c'est du devenir ? Ah, grave question. Quelle était la première question ? Est-ce que le devenir est être ? Est-ce que l'être est au-delà du devenir ? Est-ce que l'être et le devenir sont toujours ensemble ? Est-ce que l'être peut exister indépendamment du devenir ? Vous voyez, toutes ces questions-là, elles sont présupposées au point de vue métaphysique. On ne s'est pas attardé à ça, hein ? On aurait pu s'attarder. Mais comme ça a déjà été très posé, ces questions-là, on passe tout de suite. Pas de cause matérielle de l'être. Il faut de temps en temps revenir là-dessus. Est-ce que pour moi, pour mon intelligence humaine, est-ce que c'est juste de dire pas de cause matérielle de l'être ? L'être comme tel n'est pas matière. L'être matériel, c'est l'être en devenir. Et le devenir n'est pas l'être. Le devenir est pour l'être, mais n'est pas l'être. Le devenir est en vue de l'être, mais n'est pas encore être. Donc, pas de cause matérielle de l'être. On va très vite en disant pas de cause matérielle de l'être, mais il est bon, je crois, d'y revenir. Et il faut de temps en temps se poser la question, est-ce que pour mon intelligence humaine, y a-t-il une cause matérielle de l'être ? Si, pour mon intelligence humaine, il y a une cause matérielle de l'être, ah, donc, tout être est matériel. Est-ce que dans la structure de l'être, il y a la matière ? Ou est-ce que la matière est une modalité de l'être ? L'être matériel. L'être peut être matériel, mais il n'était pas nécessairement matériel. C'est une question très très importante aujourd'hui. L'âme humaine, elle est, elle existe. Est-elle matérielle ? L'âme humaine. Oui, il a fallu des siècles et des siècles de pensée pour arriver à dépasser la matière quand on regardait l'être. Et nous nous risquons dans notre monde d'aujourd'hui à retomber dans cette conception matérielle de l'être. Il faut à tout prix que nous arrivions intellectuellement à montrer que l'être n'est pas matériel, comme être. Le « en quoi » est l'être, ça n'a pas de question, il est être. Vous voyez ? Parce que si vous mettez « en quoi » est l'être, vous mettez quelque chose d'autre que l'être. En quoi est l'être ? Il y a donc un antérieur à l'être, et donc l'être n'est plus premier. Si l'être est premier pour mon intelligence, qu'il n'y a rien avant l'être, il y a l'être. L'être n'est pas matière. Parce que en quoi est l'être, ce serait quelque chose d'antérieur à l'être. Et je vous dis, il y a quelque chose antérieur à l'être. Il y a le devenir. Avant que j'aie été, il y a eu la formation de mon corps. Certains, aujourd'hui, prétendent que l'âme a été créée avant le corps. Et non pas dans le corps. Ça n'est rien, cette petite question, mais elle est très importante. Parce que si vous dites que l'âme a été créée avant le corps, ça veut dire que l'âme a été créée en elle-même, pour elle-même, indépendamment du corps. Et donc, l'union de l'âme et du corps n'est plus substantielle. Elle est accidentelle. C'est une question qui revient aujourd'hui, très fort, ça. Mais pour tous ceux qui veulent que l'âme soit créée avant le corps. Pour saint Thomas, c'est très net. Le corps a existé avant comme fœtus. Et c'est dans le corps que l'âme est créée. Pour que ce soit une union substantielle. Ça n'a l'air de rien, ça, hein, puisque aujourd'hui c'est une question constante. Je connais quelques philosophes très bons, très gentils, délicieux. Mais dites tout simplement que l'âme est créée avant le corps. Et ils font ça pour un but apologétique. Pour dire qu'il y a toujours alors avortement. Dès qu'il y a conception, il y a l'âme. Vous voyez ? Alors, pour des questions apologétiques, très facilement, on perd son objectivité et on tombe dans le subjectivisme. La personne avant tout. C'est une question quand même très importante. Cette question-là. Avant l'être, il y a un devenir. Mais ce devenir n'existe que pour l'être. Donc, il n'est pas parfait. Il n'est donc pas substantiel. Il est accidentel. Forcément. S'il n'est pas premier. Le devenir existe avant l'être substantiel, oui. Il est soutenu par la matière, mais il n'est pas l'être parfait. C'est un devenir. C'est un devenir qui, si la substance ne vient pas, ce devenir échoue, disparaît. Ça, c'est la vieille théorie. De voir qu'avant la création de l'âme, il y a un devenir. Il y a un devenir qui repose sur un vivant. Et un vivant qui ne donne pas l'âme. C'est très ennuyeux, hein, d'être un vivant qui, lorsqu'il procrée, ne donne pas l'âme. Aujourd'hui, on cherche éperdument, on peut dire, éperdument, et je crois qu'on ira très loin dans cette recherche, parce que le démon s'y mêle. Alors ça, on ne peut pas le dire au point de vue philosophique, mais nous le disons au point de vue chrétien. Alors le démon est un menteur. Il est un menteur pour qu'on croie qu'il est créateur. Alors, cette petite question qui paraît anodine, quand je vois celui qui m'écrit une lettre, très gentiment, quand vous en pourrez affirmer que l'âme est créée avant le corps ? C'est Dieu qui a créé l'âme. Alors, Dieu n'a pas laissé aux parents l'initiative. C'est Dieu qui a décidé. Or, c'est pas comme ça que ça se passe. La procréation, c'est Dieu qui laisse aux parents l'initiative d'avoir un enfant. Et les parents ont l'initiative. Et Dieu s'incline. Oui, causalité matérielle, causalité formelle. La causalité matérielle est antérieure. Mais quand il n'y a que causalité matérielle, il y a le devenir. Alors, le devenir ne peut pas exister sans l'aspect substantiel. On est tous d'accord. Donc, un devenir peut se développer comme devenir en vue d'eux, et pas pour lui-même. C'est cette chose, cette cause très curieuse, qu'il n'y a pas de principe propre, matériel de l'être. Donc cette question-là est très importante pour aujourd'hui, parce qu'on a la tendance, on est tous un peu matérialistes, hein, on a la tendance d'affirmer qu'il y a une cause matérielle de l'être, que le devenir peut exister comme devenir avant l'être. Alors, comme c'est le grand danger du matérialisme, vite, vite, on est apologète. On dit, ah, mais non, l'âme est créée avant. Et pour saint Thomas dit, non. Vous savez que les communistes sont aristotéliciens à cause de ça. Et Aristote a raison de dire que le devenir est avant l'être, pour l'être humain. Nous avons été un petit fœtus avant d'être, et tout était en vue d'eux. Le devenir n'est pas l'être, il est pour l'être, tout entier ordonné à l'être. Et le devenir qui ne serait que le devenir ne peut pas exister seul. Il peut exister en fonction d'un milieu vital. Et un milieu vital peut soutenir le devenir et permettre au devenir d'exister. Et ce devenir existe grâce à ce milieu vital. Or, de fait, nous avons été comme ça. Nous avons eu une première période de vie qu'on existait en fonction du milieu vital. Notre mère serait morte quand on était tout au début. Nous serions morts avec elle. C'est sûr. Ce qui montre bien que l'être en devenir n'existe pas par lui-même. Il existe par un autre. Alors c'est très humiliant, hein, pour un vivant d'avoir eu une période où on existait grâce à un autre. Notre autonomie, elle en prend un gros coup. Et ne pas reconnaître ça, ce n'est pas être réaliste. Nous sommes des êtres vivants qui ont commencé de vivre en dépendance étroite et essentielle de ce qui était le milieu de notre vie, le sein maternel. Et ce n'est qu'au bout d'un certain temps que Dieu crée l'âme et permet à ce moment-là au fœtus d'avoir une existence personnelle, individuelle, d'être. Alors vous voyez comme c'est important cette question-là. Y a-t-il un principe d'être au niveau matériel? Eh bien non, il n'y a pas de principe d'être au niveau matériel. L'être, son premier principe, c'est la substance, donc la forme. Son premier principe. L'être est d'abord, en premier lieu, forme. Pas matière. Il a été matière en étant un être en pur devenir, tout entier tendu vers sa forme, qui était son âme.